17. Le tournoi de l'immortel. Les chanfreins sont lacés, les harnais sont bouclés, les chatons des cuissards sont barrés de leurs clés, les trousseaux de poignards sur l'arçon se répandent, jusqu'au pied des chevaux les caparaçons pendent, les cuirs sont agrafés, les ardillons d'airain attachent l'éperon, serrent le gorgerin. La grande épée à main brille au croc de la selle. La hache est sur le dos, la dague est sous l'aisselle. Les genouillères ont leur boutoir meurtrier. Les mains pressent la bride et les pieds l'étrier. Ils sont prêts. Chaque homme est masqué de son crible. Tous se taisent, pas un ne bouge. C'est terrible. Victor Hugo. Aujourd'hui, mes seigneurs, resteront l'honneur de madame ma mère, conclut Blancandin de Bromel. Le jeune prince était entouré de chevaliers en grand harnois dans la cour du petit château de Lindinas. Son cousin Claudas de Quimarc, splendidement cuirassé, lui avait cédé le privilège de haranguer leurs compagnons d'armes. Quoique capitaine du camp du Dedans pour la journée, le fils d'Anguzel avait jugé de bon ton et peut-être de bonne politique de laisser la parole au fils de la duchesse. Du reste, l'héritier du comte n'avait pas besoin de parler pour impressionner. À présent qu'il portait l'armure blasonnée des chevaux courants de Quimarc, la stature, le visage carré et l'expression déterminée de Claudas suffisaient à en imposer. Moins impressionnant, Blancandin avait pourtant gagné en assurance depuis la veille. Si difficile avait-elle pu paraître, sa victoire aux commensailles avait renforcé sa détermination. Le jeune chevalier, parce qu'il avait fait ses preuves, commençait à susciter les sympathies et l'estime. Il avait montré qu'il disposait de deux qualités appréciées chez les capitaines, la vaillance et la chance. Les combattants plus expérimentés pouvaient croire en sa bonne étoile. Dans le camp du Dedans, on se persuadait qu'il était possible d'arracher une nouvelle victoire sur le pré. Dès que Blancandin eut terminé son discours, Claudas fit un signe au sergent qui occupait le sommet de la tour. Ils déroulèrent une immense bannière vert et or qui flotta mollement le long du parement de pierre. Une clameur de louanges et de cris de guerre monta non seulement de la compagnie des chevaliers, mais aussi, hors de l'enceinte, des centaines de gens de pied déjà déployés sous les remparts. Les armoiries de Sinople aux trois engemmes d'or livraient symboliquement le château de Lindinas à Odéarde de Maginois. Même si cet emblème n'était que le prétexte à un jeu aussi courtois que brutal, la provocation n'en demeurait pas moins audacieuse. Vassal de Ganelon de Bromel, Anguzel de Quimarc faisait mine de reprendre son hommage pour la porter à la duchesse répudiée. Parmi les chevaliers du Dedans, il y en eut plus d'un pour rire avec un mélange d'exaltation et de malaise. Tous s'étaient prêtés consciemment à la fiction de la rébellion. Mais à présent que les couleurs de la duchesse déchue ornaient la position qu'il devait défendre, la fête prenait un nouveau relief, comme un étourdissement, un vertige de fuite en avant. La partie serait d'autant plus rude qu'il était convenu que les portes de l'enceinte resteraient ouvertes. La mêlée serait un pas d'armes, non un siège. Dès lors que la bannière flottait au-dessus des fortifications, il était temps de se ranger en bataille. De l'autre bout de la prairie montait d'ailleurs un grondement hostile. Les chevaliers et les sergents du dehors, qui étaient en train de se déployer, huaient et vitupéraient les armoiries de la dame déchue. Dans l'entourage de Blancandin, Dame de Maubrenas et Fitzurs du Havne accueillirent ce tollé la mine sombre. Le soupirant malheureux de la duchesse secouait sa vilaine tête d'un air scandalisé. « Maudit traître » grommela-t-il. « Il n'y a pas si longtemps, ils auraient écharpé quiconque aurait osé tenir ce langage. »« Aujourd'hui, c'est à nous que revient cet honneur, » dit fièrement le sire de Maubrenas. Au moment de se scinder en trois conrois, certains compagnons séparés par l'ordre de bataille se saluèrent ou s'embrassèrent. Quoique déjà armés et cuirassés, les chevaliers n'étaient pas encore casqués, à l'exception notable du chevalier au pie et du chevalier au coucou, qui ménageaient ainsi leur mystère. Ivorin de Kéan tomba littéralement dans les bras d'Edan de Vaumacel et l'étreignit avec chaleur. « Ah, Sir Edan ! » s'écria-t-il. « Je n'ai qu'un regret, ne pas avoir obtenu de charger à votre côté. Prenez garde à vous. » Et plus bas, il ajouta, « Grâce à votre aide, depuis hier, je suis le plus libre et le plus heureux des hommes. Désormais, tout devient possible. » En s'écartant du sire de Vaumacel, le bachelier lui montra brièvement sa main gauche, qui n'était pas encore gantelée. Il y portait un annelet au petit doigt, la perle tournée vers la paume. Les deux chevaliers échangèrent un sourire sans avoir besoin d'en dire davantage. Dans la lumière du matin, ils étaient aussi pâles l'un que l'autre. Ivorin avait même les joues mangées de cernes, mais au fond de ses yeux, dansait une joie encore un peu incrédule. Quand il quitta le sire de Vaumacel, il entraîna à sa suite les chevaliers au coucou et au pie. Au passage, celui-ci désigna Clodas de Kimark tout en glissant à Edan, « Si vous êtes menacé, tâchez de revenir près de ce seigneur, il saura vous protéger, car il dispose d'un charme bien meilleur que son grand harnois de guerre. Il est beaucoup mieux armé qu'il y paraît. » Au sortir du château, les conrois se séparèrent. Comme convenu, Gérian de Froek prit la tête de l'aile gauche, composée de chevaliers venus de la vallée de la Claie, avec lesquels il avait de nombreux liens de parenté et de voisinage. Blancandin commandait l'aile droite, appuyé par la plupart de ses compagnons de la veille, à l'exception de Cowyr de Thèves, trop grièvement blessé pour remonter en selle. Vichard de Laudunay, échangé contre l'orgueilleux de Contremont, était de retour dans la bande. Les deux aventureux du bois oiselé renforçaient ce parti. Clodas de Kimark commandait le centre, à la tête de preux des pays de Mormark et de Neuvidine. Les vétérans firent bon accueil au sire de Vaumacel, car ils partageaient avec lui plus d'un souvenir remontant au dernier conflit avec le duché. Tous ces tournoyeurs formaient une impressionnante cavalerie, car chacun était escorté par un, voire deux écuyers montés et équipés en guerre. Sanglé dans sa brigandine, armé de sa hache de cavalerie et de plusieurs lances de rechange, Nem suivait ainsi le chevalier de Vaumacel. Le pavé de la cour, puis la terre battue du chemin, vibrèrent sous les sabots ferrés de ce splendide escadron. Certes, le temps était un peu maussade. Le ciel roulait des nuages gris et lâchait parfois des gouttes éparses. On avait espéré un soleil plus franc pour croiser le fer. Mais le futur champ de bataille n'en chatoyait pas moins de couleurs. La blancheur surette des pommiers en fleurs tranchait sur la verdure de la prairie. Bannières, blasons, cottes d'armes armoriées, cuirasses doublées de soie et de velours, housses brodées des destriers, hampes et écus repeints de frais, transformaient la troupe belliqueuse en une parade de coquets caparaçonnés. En prenant position, les trois conrois du dedans provoquaient des mouvements de foule qui tenaient presque du balai, car les gens de pied s'écartaient devant les colonnes à cheval et se refermaient derrière elles, ouvrant des corridors hérissés de guisarmes et de vouges. Tous ces hommes d'armes, qu'ils fussent sergents, écuyers ou chevaliers, portaient des brins dorés d'immortels épinglés au tabard ou accrochés au cimier. À l'autre bout de la prairie, des remous semblables agitaient les forces du dehors. Tout en chevauchant aux côtés de Clodas de Kimark, Edan essayait de repérer les bannières adverses. Un alcyon d'argent flottant sur une onde d'azur ornait l'écu du capitaine de l'aile droite. Les chevaliers du comté de Belle-Estance se mesureraient donc à ceux de la vallée de la Claie. Le sire de Vaumacel en fut soulagé pour Ivorin de Kéan. Le bachelier, engagé à l'autre extrémité, courait peu de risques d'affronter des gens de sa parenté ou son seigneur Ménard de Prangeret. De fait, face au conroi de Blancandin, se rangeait en ordre de bataille la troupe de Fitzganlon, avide de prendre sa revanche. Une piétaille particulièrement sinistre renforçait l'escadron du seigneur d'Ouchin. Des gens de pied massifs, hirsutes, aux livrées assez ternes. « Le bâtard a sifflé ses chiens au roman », observa Clodas sur un ton amusé. « À la bonne heure, ceux-là, on pourra les éreinter sans retenue. » au centre du dispositif adverse, prit place le conroi d'Anaro de Traval. Le connétable était repérable de loin, non seulement à ses armoiries de sable au faisceau de lances d'argent, mais aussi à son armure vermeille. À sa droite, monté sur un destrier puissant, paradait un chevalier dont les armes ducales firent sensation. Un instant, on crut que Ganelon était venu en découdre en personne. Puis, un écuyer à la vue plus perçante précisa que l'écu à la rencontre de Serre Héliophore était marqué d'un lambelle. Le duc n'avait donc pas daigné descendre sur le pré, mais avait laissé son fils aîné prendre les armes. « Ainsi, l'enval est de la fête !» se félicita Claudas. « On dit qu'il n'a pas la tête très solide, mais notre cousin en graisse de Brocmel en a fait un jouteur aguerri. Avec Traval, il peut nous donner du fil à retordre. » Un autre champion de l'entourage du connétable piquait les curiosités. Il portait une splendide armure d'acier sombre, toute dorée de damasquinage, et arborait un blason aux couleurs inhabituelles. Céleste à la sirène nue de carnation et à la double queue sinople. « Je crois reconnaître ce chevalier à la sirène », finit par annoncer Claudas. « Son harnois est tchoudalien. Ce doit être le seigneur Razikari, l'ambassadeur de la République et le cousin de la petite duchesse. Compagnon, celui d'entre nous qui fera cette prise croulera sous l'or. » Les chevaliers de Mormarque et de Neuvidine se réjouirent en riant. Ils plaisantaient sur la sottise du tchoudalien qui ne s'imaginait sans doute pas à quel point son commerce serait bientôt prisé. Claudas souriait de leur bonne humeur et de leur rapacité. Au bout de quelques instants, il ajouta tranquillement, juste à l'attention des Danes, « Hier, j'ai trouvé ce Razikari raffiné et mieux élevé que sa cousine. La dame Clarissima m'a paru impolie, drôle et intelligente. Je crois que je l'aime bien. Qu'importe, il faut que nous nous en débarrassions au plus vite. Elle deviendra trop dangereuse quand Ganelon commencera à décliner. Or, son Altesse Ducale n'est plus toute jeune. » Les deux armées se rangeaient progressivement en ordre de bataille. Tant que les hostilités n'étaient pas engagées, la chevalerie restait couverte par un rang de gens de pied. Les troupes du dedans comme celles du dehors avaient adopté la même disposition. Les sergents de chaque corps formaient des cercles plus ou moins réguliers qui servaient de camp retranché aux écuyers, aux chevaux de remonte et aux chevaliers ayant besoin de soins ou de nouvelles armes. Du côté du dedans, Claudas avait appuyé ses formations défensives au verger de l'Indinas. Ordre avait été donné aux piétons de se retrancher sous les arbres s'ils devaient subir une charge de cavalerie. La ramée aiderait les armes d'Ast à rompre l'élan de l'assaillant. Comme les troupes achevaient de prendre position, un individu isolé s'avança dans le vaste espace herbeux situé entre les premières lignes. Il ne s'agissait ni d'un chevalier, ni d'un héros d'armes, ni même d'un simple sergent. L'imprudent n'était qu'un vulgaire piéton, vêtu d'une robe noire et un peu crottée, un capuce tiré sur le nez. De part et d'autre, on suivait des yeux avec un mélange de curiosité et de défiance l'initiative de cet énergumène. Sa coule sombre, incrustée de terre, laissait présager un pieux rabat-joie. Il était d'usage que des prêtres du desséché vinssent assister au tournoi, au cas où l'on aurait eu besoin de leur sacrement. Certains avaient même le mauvais goût d'exposer un cercueil ouvert avant le début des réjouissances, pour en appeler à la mesure des champions. Mais qu'un dessicatorien, assez miteux de surcroît, eût le culot de s'interposer entre les armées, voilà qui sortait de l'ordinaire. Lorsqu'il fut à peu près au centre de la prairie, le saint homme s'arrêta, la tête baissée. Il se frappa la poitrine à plusieurs reprises, puis tomba à genoux. Il plongea une main dans l'herbe, fourragea dans le sol meuble, en arracha une grosse motte toute chevelue de radicelle. « Voyez ! Voyez ! » cria-t-il en brandissant sa poignée de glaive. Sa voix portait, caverneuse et puissante malgré le bruit monté des deux armées. « Voyez ! Voici la vérité ! » proclama-t-il encore. Il se releva, le poing dressé, et tourna lentement sur lui-même afin d'exposer le paquet de boue au regard de tous.
« Voyez, seigneurs et chevaliers, gendarmes et écuyers, champions et bacheliers, voici votre sang et votre noblesse, voici la matière de vos lignées, voici notre condition à tous, mes frères mortels !»
Cet exorde souleva un brouhaha hostile dans les troupes, où se mêlaient ricanements de dédain, colibets et injonctions de se taire. Loin de décourager le prédicateur, ses comportements menaçants parurent alimenter sa détermination.
« Je vous rends grâce, mes frères !»
célébrait-il.
« Je vous rends grâce pour vos menaces et pour vos injures. Car c'est toujours ainsi qu'on accueille la vérité. Car ainsi vous justifiez la parole du Dieu. Et je vais vous montrer ce que vous ne voulez pas voir. Avant ce soir, combien d'entre vous seront retournés à cette terre qui vous offusque tant ?»
Le prêtre tonnait à pleine voix en faisant de grands gestes. Dans cette agitation, son capus lui glissa sur la nuque, dévoilant une figure pâle et disgraciée, à la mine un peu tordue, au regard horriblement bigre.
« Pourquoi vous battez-vous »
s'emportait-il.
« Pour l'honneur ? Pour une femme ? Pour des couleurs ? Des mots, tout cela ! Des mots ! La vérité, c'est que vous combattez pour satisfaire votre orgueil, autant dire pour du vent. Et ainsi, par vanité, vous êtes prêts à souiller vos mains bien plus que les miennes. Vous êtes même prêts à retourner à la boue. »
Des huées et des cris répondaient à présent à son discours. Mais cela ne faisait qu'ajouter à l'exaltation du dessicatorien dont la face blafarde rayonnait de ferveur.
« Vos mots sont plus sales que la terre qui vous emplira bientôt la bouche !»
fulminait-il.
« Pauvre fou ! Vous criez déjà comme les âmes égarées dont mon culte a la charge. Que faites-vous de votre force, de votre vaillance et de vos armes? Les mettez-vous au service du bon droit? Protégez-vous le faible, la veuve et l'orphelin? Allons donc! C'est vous qui faites la veuve et l'orphelin !»
Malgré la puissance de son organe, le prêcheur commençait à avoir du mal à se faire entendre au milieu du tollé de protestations qu'il soulevait. Bizarrement, des fous rires se mêlèrent soudain aux invectives, mais le prêtre n'en comprit pas tout de suite la raison.
« Vous croyez jouer avec votre vie ? »
poursuivait-il avec feu.
« Vous croyez que le mépris du danger vous auréole de gloire ? La vérité, c'est que vous jouez avec le trépas. Le trépas est un champion impitoyable qui, dès qu'il vous aura terrassé dans ce champ, en sortira pour frapper tout ce qui vous est cher. Croyez-vous que la mort ne vous privera que du souffle? Quand elle vous aura précipité dans son séjour, elle sèmera la tristesse chez vos amis, elle laissera vos épouses sans soutien, elle précipitera la faim de vos parents, elle rôdera autour de vos enfants. »
Mais une franche gaieté se répandait à présent dans les rangs des deux armées. Le prédicateur se mit à écumer, offusqué que ses avertissements puissent produire une telle hilarité. Et puis, avec un temps de retard, il se rendit compte qu'il n'était plus seul au milieu du pré. Il venait d'être rejoint par les bateleurs de la compagnie folle, dont les bouffonneries déridaient les gens de guerre. L'elfe Erin, grand-duc des Sacripants, affrontait à la joute le nain Merfol, qui avait troqué sa robe de maquerel contre une armure de théâtre. Les adversaires caracolaient en équilibre instable sur de petits destriers à pieds humains et à masque de cheval. Sous la housse bricolée, les montures étaient en fait formées par un attelage de deux plaisantins. Le grand-duc des Sacripants était casqué d'un entonnoir, Merfol d'une marmite. Des têtes de tonneaux peinturlurées leur servaient d'écus, et des balais de genêt leur faisaient office de lance. Les deux amuseurs, après avoir paradé en quêtant les acclamations, s'étaient défiés de l'époucette en se jetant des œillades terribles. Leur charge brinque-ballante, l'arrière-train des chevaux avait parfois du mal à suivre la tête, ce qui manqua d'ailleurs de renverser le nain avant le premier choc, vola facilement la vedette aux dessicatoriens. Leur passe d'armes suscita une ovation moqueuse. Le grand-duc des Sacripants avait férocement brossé la barbe de mère folle pendant que le nabot lui avait balayé l'entonnoir. On applaudit surtout le nain, dont le coup au cimier fut jugé excellent par ce public de connaisseurs. Mais le duel ne faisait que commencer. Lâchant leur balai, les deux histrions voltaient pour s'affronter en bataille. Cette fois, ce fut Erin qui fut près de mordre la poussière, la croupe de son destrier ayant failli poursuivre sur sa lancée pendant que les antérieurs tournaient. Au moment d'en découdre, les champions dégainèrent des frottoirs à longs manches. Celui de mère folle, à en juger par son crin, semblait d'ailleurs lui avoir fait quelque usage. Après avoir raclé mutuellement leur cul de tonneau, ils se déportèrent jusqu'au prédicateur autour duquel ils se poursuivirent follement. Cette facétie leur valut un franc succès. Des vagues de rire agitaient les casques et les fers de lance des deux armées. Écœuré, le dessicatorien jeta l'éponge et, ayant remis son capus, partit à grands pas. Sa retraite croisa par accident la cavalcade erratique de mère folle. Le heurt n'eut rien de très violent, mais fut suffisant pour désolidariser la haridelle et envoyer le nain au tapis. Pendant que le prêtre quittait le pré en fulminant, le nabot braillait les bras en croix au milieu du plantain.
« un cheval, mon royaume pour un cheval !»
Alors que le grand-duc des Sacripants caracolait autour de mère folle et des deux drôles qui essayaient de reprendre forme équine, la farce prit un tour assez inattendu. Sortant des lignes du camp du dedans, le chevalier au pis s'avança vers les batteleurs. En selle sur un destrier d'une élégance rare, magnifiquement cuirassé et casqué, il concentra sur lui tous les regards. Erin fit mine de le défier avec sa brosse de dos et chevaucha à sa rencontre dans un équilibre instable. Lorsqu'ils furent arrivés côte à côte, ils échangèrent quelques mots inaudibles pour la foule des gens de guerre. Erin se tenait très digne sur sa monture de carnaval, dominée par la carrure splendidement équipée du chevalier au pis. Dans l'assistance, on s'attendait à une nouvelle facétie, mais le bouffon et le preux se comportèrent étrangement en se serrant l'avant-bras droit. S'agissait-il du prélude à une momerie? Nul ne le sut jamais, car la situation dérapa. Trois chevaliers jaillirent sans prévenir des rangs de l'armée du dehors et chargèrent le curieux duo. Leur irruption fit sensation et provoqua une houle de cris concurrents dans les deux camps. Leurs intentions étaient sans équivoque. Ils galopaient couverts du bouclier, l'épée en garde haute. Le premier portait un blason d'azur à trois coupeaux d'argent. Le deuxième, des armes de sable au renard passant. Et le troisième, un écu d'argent aux deux bâtons de sable. Bien qu'il fût éloigné de cette partie du pré, Eddan reconnut aussitôt trois des champions vaincus la veille. Il s'agissait de l'orgueilleux de Contremont, du rançonneur Wacre de Lointieu et de Bérard d'Estrif, dit Bras Raccourci. « Les fourbes » blâma-t-il. « Ils saisissent l'occasion de prendre une revanche. » « Votre ami a été imprudent. » dit Clodas en désignant le chevalier au pis. « Espérons juste que l'escarmouche n'échauffera pas les esprits trop vite. » Le capitaine du dedans préférait différer l'ouverture de la mêlée, le temps jouant pour les défenseurs. Sans désemparer, le chevalier au pis tira l'épée et, poussant son cheval en avant, offrit le combat. Au même moment, Mère Folle se relevait et déguerpissait de toute la vitesse de ses courtes jambes derrière les deux jongleurs qui lui avaient servi de monture. Le cheval d'Erin se dissocia également en deux fuyards qui, laissant tomber leurs cavaliers, s'égaillèrent en une galopade éperdue. Le grand-duc des Sacripants se rétablit cependant avec une dignité comique et, au mépris du danger, menaça de sa brosse le trio cuirassé. Le choc entre le preux isolé et ses trois adversaires retentit à travers toute l'étendue du pré. Attaqué de façon frontale par l'orgueilleux de Contremont et Bras Raccourci, le chevalier Hopi fut aussi menacé sur ses arrières par Ouacre de Lointieux, qui venait d'opérer un crochet pour revenir dans son dos. Dans une atmosphère qui s'assombrissait, zébré par les premières gouttes d'une averse, les lames des quatre cavaliers tourbillonnaient et s'abattaient en un tempo brutal. Le combat était par trop inégal. Un frémissement agressif parcourut les conroys du dedans, mais Claudas de Quimarc se dressa sur ses étriers en élevant sa main ouverte. « Restez tranquille !» cria-t-il. « Ne cédez pas à la provocation !» Dans l'aile gauche, le sire de Froëc relaya l'ordre avec autorité. À droite, en revanche, un flottement continuait de troubler le conroi de Blancandin. Dante de Maubrenas exhortait au calme, mais Fitzurs du Havne clamait que c'était une honte de ne point soutenir leurs compagnons d'armes. Edan parcourut des yeux la ligne ennemie. Les gens de pied et certains chevaliers s'agitaient, brandissant le poing et encourageant leurs trois champions. Mais personne ne faisait mine de marcher. Ils nous mettent au défi d'abandonner nos positions, observa Nem derrière lui. Bien que l'écuyer eût parlé sans élever la voix, Claudas l'entendit. C'est de bonne guerre, confirma-t-il sans se retourner. Pour tenter une percée, Traval mise sur une contre-attaque plutôt que sur un assaut. Bien qu'il tînt vaillamment tête à ses adversaires, le chevalier Hopi paraissait perdu. Assailli sur sa droite comme sur sa gauche, tandis que le chevalier de Lointieux le frappait lâchement dans les reins, son sort semblait scellé. Un coup de théâtre vint pourtant desserrer l'étau qui s'était refermé sur lui. Loin de fuir l'escarmouche, le grand-duc des Sacripants s'en était approché d'un pas décidé en adoptant des poses de matamor. Sa témérité, réelle quoique bouffonne, faisait rire dans les rangs des deux armées. Mais personne ne s'attendait à ce qui suivit. Arrivé sur le flanc du chevalier au renard, il lâcha sa brosse de dos, saisit par surprise le félon derrière le genou et sous le talon, et d'une poussée lui fit perdre son assiette. Pris au dépourvu, Ouacre de Lointieux vida les étriers. À peine avait-il roulé au sol, qu'Erine bondissait en selle et s'enfuyait avec le destrier. Ce mauvais tour avait été si preste qu'il laissa l'assistance sans voix quelques instants, avant que des rugissements de joie ou de protestation ne soulevassent les troupes. Le grand-duc des Sacripants parcourut au galop presque toute la largeur du pré, faisant mine d'être incapable d'arrêter la monture et terrifié par sa propre audace, il se mit à pousser des cris d'effroi qui ranimèrent l'hilarité générale. Pour finir, après avoir recommandé son âme à la déesse Ululata, protectrice des dupes et des imbéciles, il se laissa tomber en pleine course, non loin de la barrière. En une pirouette, il fut sur pied. Il adressa deux profondes révérences au public et fila se réfugier dans le camp du dedans. Cette plaisanterie soulagea légèrement le chevalier Hopi. Toutefois, toujours engagé contre deux adversaires aguerris, sa situation restait périlleuse. Du bouclier, il arrêtait les grands coups de taille que lui infligeait Bras Raccourci, tandis que de l'épée, il déviait les assauts de l'orgueilleux de Contremont et l'empêchait de saisir les rênes de son destrier. Ouacre de Lointieux, tombé sans mal dans l'herbe, avait d'abord roulé sur lui-même pour éviter d'être piétiné. À peine sur pied, son premier mouvement avait été de récupérer son propre cheval et il s'était lancé à la poursuite d'Erine. Mais l'elfe insolent était déjà à l'autre bout du pré quand le sire de Lointieux n'avait fait que 10 pas. Comprenant qu'il se couvrait de ridicule, le chevalier au renard fit demi-tour pour attaquer de rechef le chevalier au pie. Ce fut alors que, rompant le rang, le chevalier aux armes de Sinople à la nef d'or sortit du conroi de Blancandin et chargea le sire de Lointieux. Claudas pesta contre ce fou, qui, par solidarité, passait par-dessus le commandement et fragilisait toute la ligne.
« Sire Fitzurs n'en a toujours fait qu'à sa tête. » dit Edan.
Le chevalier du Havne fit seulement mine de s'en prendre au rançonneur. En fait, il cherchait juste à le dissuader de s'attaquer au chevalier Hopi. Finalement, il passa à une toise du combattant démonté et réserva son assaut à l'orgueilleux de Contremont. Celui-ci parvint à résister au choc, assez rude, où Fitzurs brisa sa lance, mais ne put le faire qu'en suspendant ses assauts contre le chevalier Hopi. L'affrontement était sur le point de se rééquilibrer. Des ordres retentirent alors dans l'aile gauche du dehors. D'un seul coup, le premier rang de soudoyers ou romans s'effaça devant la chevalerie du grand bâtard, qui s'avança dans un ample mouvement de barde et de chanfrein d'acier.
« Ne répondez que s'ils attaquent !» cria Claudas.
Mais son aile droite réagissait déjà et s'ébranlait à son tour, serrée autour de Blancandin. Dans les deux camps, les autres corps de bataille restaient dans l'expectative, gardant à l'œil la ligne adverse tout en attendant de voir ce qu'allait donner le premier choc. Tous les chevaliers coiffèrent cependant leur homme en prévision de la mêlée. Celui de Claudas de Quimarc était repérable de loin à son grand cimier en forme d'hippogriffe. À la ronce qui ornait le sien, le chevalier de Vaumacel avait ajouté une longue manche soyeuse. Sa couleur était d'azur estival, sur lequel scintillait un réseau de petites étoiles à huit branches. Il fallait y regarder de très près pour réaliser que ces astres avaient été brodés à la semblance d'araignées.
« Tiens !» s'étonna Claudas. « Vous ne portez pas les couleurs de la duchesse ?»
En défendant celle d'une autre dame, « je montre qu'on nous a calomniés, la duchesse et moi. » Repartit Edan. Au milieu du pré, le chevalier Opi avait repris le dessus sur le sire d'Estrif. Mais c'était à présent Fitzurse du Havne qui paraissait en difficulté, accroché par l'orgueilleux de Contremont à cheval et harcelé sur son flanc par Wacre de Lointieu. Du reste, cette escarmouche allait être complètement rebattue d'un instant à l'autre. Le sol gronda sous le galop des deux escadrons cuirassés lorsque les conrois de Blancandin et de Fitzganelon s'élancèrent l'un vers l'autre.
« Honneur à Odéharde !»
clamèrent les chevaliers à l'immortel. Tandis que leurs adversaires rugissaient
« Bromel ! Bromel !»
Serrées botte à botte, les deux bandes se ruèrent l'une contre l'autre. Elles abaissèrent les lances juste avant de percuter les cinq téméraires qui avaient pris l'initiative du combat. En un instant, ceux-ci furent enveloppés et engloutis. Le choc se répercuta dans l'atmosphère pluvieuse avec la brutalité d'un effondrement. Deux vagues écumantes d'acier, de pennons et de blasons se heurtèrent dans un fracas de bois brisé, de métal bossué et de hennissements furieux. Des hommes s'abîmèrent, des destriers se cabrèrent. Les couleurs se mêlèrent et bientôt les lames des épées accrochaient la lumière terne de cette matinée maussade. Dans ce tourbillon fastueux et déchaîné, il était difficile de voir se dessiner un avantage. Parfois, un cimier, les armoiries d'un bouclier ou d'un caparaçon permettaient de reconnaître un preux. La plupart du temps, on ne voyait qu'une énorme bousculade d'une brutalité inouïe rendue encore plus confuse par l'averse qui devint drue. Des cinq impétueux qui avaient ouvert les hostilités, seul le chevalier Opi semblait avoir réussi à rester en selle. Ses couleurs, et surtout sa longue lame argentée, apparaissaient parfois au cœur de la mêlée. Bizarrement, il était le seul des aventureux du bois oiselet engagé sur le pré. Ses deux compagnons s'étaient pourtant rangés dans les conrois de Blancandin et Fitzganelon, mais ni l'un ni l'autre n'avait participé à la charge. Le chevalier au coucou avait adopté une rigidité de pierre au milieu des sergents d'armes de l'aile droite du dedans, tandis que le chevalier au jet semblait piaffé parmi les mercenaires ou romans du grand bâtard. Dans les conrois en réserve, le tumulte du combat rendait les chevaux nerveux. Les destriers encensaient ou frappaient du pied, parfaitement conscients que viendrait bientôt leur tour de se jeter dans la bataille. À la tête du camp du dehors, le connétable tenait toutefois son centre et son aile droite aussi fermement que Claudas de Quimarc. Les deux capitaines réfrénaient les ardeurs de leurs hommes, cherchant à pousser l'adversaire à la faute. Soudain, une rumeur courut les rangs des troupes.
« Blancandin est pris ! Blancandin est pris !»
La nouvelle fit sensation dans le camp du dedans, semant le doute et la colère. Les sergents s'ébrouaient, prêts à entrer dans la lutte, pendant que chevaliers et écuyers se dressaient de toute leur taille sur leurs étriers pour essayer d'y mieux voir. Imperturbable, Claudas de Quimarc retenait ses gens de guerre.
« Tenez vos positions !»
commandait-il.
« C'est peut-être une ruse. Tenez vos positions !»
Malgré la mauvaise visibilité provoquée par la pluie, Il apparut pourtant qu'une poignée de cavaliers s'extrayait de la mêlée et battait en retraite vers l'infanterie du dehors. L'un d'entre eux arborait la rencontre de Cérelliophore et le homme à tête de chien du grand bâtard. Avec deux compagnons d'armes, il escortait un captif dont les couleurs parurent sans équivoque, parti au Cérelliophore de Bromel et aux trois engemmes d'or de Maginois. L'incertitude n'était plus de mise. Fitzganlon venait de capturer son demi-frère. Cette fois, le dépit et l'impatience des chevaliers du dedans furent à leur comble. Ils ne continrent plus leurs protestations et apostrophèrent vivement leur capitaine. Et pourtant, Clodas se refusait toujours à lancer un assaut général.
« La victoire reviendra à qui tiendra la tour » clama-t-il. « Qu'importe le sort de mon cousin !»
Une nouvelle fortune de bataille sembla donner raison à son intransigeance. Deux chevaliers parvinrent à se dégager de la mêlée et donnèrent la chasse au grand bâtard et à son captif. L'un des preux souleva des cris d'enthousiasme ou de haine. Toujours en selle, son bouclier à peine bosselé, le chevalier Hopi galopait à la rescousse de Blancandin. Il était appuyé par un preux dont Edan reconnut avec bonheur l'écu au corps virolé. Non seulement Ivorin était toujours en état de combattre, mais il s'illustrait en prêtant main forte à son capitaine. Le jeune Bromel s'aperçut qu'on essayait de le secourir. Il tenta alors de reprendre le contrôle de son destrier et de se soustraire à ses ravisseurs. Il reçut aussitôt une volée de coups, mais il montait le puissant Guéridon, qui bouscula de l'épaule les chevaux voisins. Alors que le groupe n'était plus qu'à un jet de pierre des bandes d'Ouroman, cette échauffourée permit aux deux poursuivants de les rejoindre. Le grand bâtard, reconnaissant son rival, se retourna contre Ivorin. Et les deux ennemis s'accrochèrent en frappant à s'en rompre le bras. Le chevalier Hopi choqua rudement l'un des chevaliers du dehors et permit à Blancandin de se dégager. L'aventureux couvrit ensuite la retraite du prince en s'interposant avec panache. Fitzganlon s'aperçut que son demi-frère lui échappait. Sans cesser de marteler l'écu du sire de Kéan, il se mit à rugir des ordres mêlés de jurons. L'acclamation que le camp du dedans commençait à pousser pour saluer la libération de Blancandin mourut sur toutes les lèvres. Sur l'aile gauche de l'armée du dehors, les masses compactes des bandes ouromandes se mirent en branle et s'avancèrent pour appuyer le grand bâtard. Ce fut au tour de Clodas de Kimark de sacrer. Cédant à la pression des circonstances, il donna l'ordre de se préparer à charger. Comme la plupart des preux habitués à défendre les marches du comté, il avait reconnu dans cette lourde piétaille des barbares issus de plusieurs tribus, dont les brutes appartenant au clan Voltsom. Il était inconcevable de ne pas intervenir. Lorsqu'ils étaient en nombre, ces guerriers savaient tenir tête à la cavalerie, y compris de la façon la plus bestiale qui fût, en usant de leurs longues haches contre les chevaux. Toutefois, Clodas fut devancé par un preux solitaire. Sur l'aile droite, alors qu'il était resté jusque-là en réserve, le chevalier au coucou se mit en marche. Son immobilité avait été si parfaite que ce mouvement pourtant fluide et mesuré capta tous les regards comme le prodige d'une statue qui se fût animée. Il poussa son cheval en avant, plein d'une orgueilleuse raideur, la lance levée. Rien que de très ordinaire dans ce déplacement, et pourtant, il émanait de ce départ une force intangible qui exerçait un puissant saisissement. L'aventureux se détachait soudain par la seule grâce de sa décision d'en découdre. Il semblait investi par l'impulsion lente et incoercible des grandes naves qui quittent le port pour la haute mer et qui paraissent encore immobiles alors que le monde entier se met à glisser devant leur étrave. Devant la majesté de son allure, le formidable spectacle offert par les armées en ordre de bataille et par la mêlée chevaleresque parut s'affadir. Les taillis de lances, les foules casquées, la bigarrure des cottes et des bannières ternir, comme brouillé par l'averse. Au milieu de ce décor mouvant et délavé, paradait, aussi éclatant qu'un personnage d'enluminure, le chevalier au coucou. Il était le seul que la pluie nimbait d'une lueur aqueuse, blanche comme l'argent poli. le sandal de sa cotte d'armes et du caparaçon de sa monture, brodé à la semblance d'un plumage, chatoyait telles les rémiges d'un oiseau qui prend son envol dans l'éclaircie. L'averse lustrait son haut et son armure de cyane d'une myriade de perles translucides. Les murillons un peu louches qui ornaient son écu ne ressemblaient plus à un coucou, ni même à un faucon, mais paraissaient adopter l'essor conquérant de l'aigle. Quoiqu'il ne fût pas particulièrement bruyant, le pas de son destrier parvenait sourdement à l'oreille de chacun, et le cliquetis argentin de ses armes chantait un contrepoint mélodieux au tumulte des combats. L'aventureux quitta les gens de pied de l'aile droite et s'enfonça dans la mêlée à un train de promenade comme il serait entré au bois. Il traversa tout le combat sans dévier ni essuyer le moindre coup, sa seule présence suffisante à lui dégager un passage éphémère dans ce tourbillon de chevaux furieux, de lances brisées, d'écus fendus et de harnois faussés. Au moment où la meute mercenaire du grand bâtard allait déborder Ivorin et le chevalier au pis, le chevalier au coucou émergea du corps à corps chevaleresque et se dressa face aux barbares. L'impensable se produisit alors. 100 brutes farouches, endurcies aux tueries les plus sanglantes, marquèrent le pas. Fitzganlon, tout en continuant à ferrailler contre le chevalier de Kéan, couvrit ses soudoyés d'injures, mais ne parvint pas à raviver leur courage. Comme subjugués, les ouromans balançaient, effrayés par leurs propres hésitations. Pendant un instant interminable, le chevalier au coucou arrêta donc à lui seul l'assaut d'une horde. Et puis quelque chose vint rompre le charme. Un rire juvénile et dur éclata à l'arrière des ouromans. Caracolant de façon menaçante, le chevalier au jet s'amusait du tableau.
« Quel esbrouffe ! Juste un tour véniel !» se moqua-t-il. « À moi, vieux poseur ! Prouve ta valeur !»
Sur ces mots, le jeune aventureux éperonna sa monture. Au mépris de toute prudence, il la lança très vite au galop, au moment où il rejoignait les gens de pied. Du poitrail, le destrier renversa plusieurs ouromans avant de jaillir hors des lignes. Face à lui, le chevalier au coucou s'était remis en marche. Les deux preux baissèrent les bois et se heurtèrent durement. Les lances plièrent sans rompre, et ce fut à peine si les champions ployèrent. Ils s'écartèrent pour une nouvelle passe d'armes, et comme leur joute risquait d'être gênée tant par les bandes ouromandes que par la mêlée chevaleresque, ils eurent la témérité de prendre du champ perpendiculairement à la ligne de bataille. L'assaut du chevalier au jet avait toutefois dissipé en grande partie le charisme de son adversaire. Les guerriers des clans d'Eorcine, Voltsom et Seada recouvrèrent leur audace, et sans plus se soucier du duel des aventureux, reprirent l'offensive. Dans la plus grande confusion, les chevaliers du bois oiselés se chargèrent à travers la ruée des mercenaires. En un instant, la masse des piétons ouromans s'engouffra dans la mêlée pour soutenir le grand bâtard et son conroi. Durant le répit aussi bref qu'extraordinaire offert par le chevalier au coucou, Claudas de Quimarc avait encore retenu la chevalerie du centre et de l'aile gauche. Mais le sursaut des ouromans rendait la situation trop dangereuse. Il ne pouvait plus laisser son aile droite sans soutien, de crainte de la perdre et d'être tourné. D'un geste, il se fit apporter une lance par son écuyer et, agitant son pennon, donna le signe de l'assaut. Toute la ligne du dedans gronda de joie, tandis que celle du dehors lui renvoyait son rugissement. Les conrois bardés d'acier s'avancèrent l'un vers l'autre, tout d'abord au pas pour rester en ordre sur une rangée particulièrement longue. Les écuyers en armes suivaient en deuxième ligne, prêts à épauler leur seigneur ou à ferrailler contre l'adversaire. Claudas et Edan voyaient le connétable marcher à leur rencontre, étroitement encadré par ses chevaliers.
« Je sais que vous l'avez défié, mais je vous prie de me laisser travail, »
dit le capitaine au sire de Vaumacel.
« C'est beaucoup me demander, » objecta Edan. « J'ai tout à gagner en le vainquant. »
« Justement. » Ceci est un tournoi, non une ordalie. Vous nous obligeriez, mon père et moi, en me cédant la place.
Le chevalier aux épines prit un long instant de réflexion, alors que la distance se réduisait dangereusement avec le front adverse.